Nicolas Richard, bienvenue à cette 19e édition du podcast Sur la ligne. Très content de t'avoir avec moi, comme toujours. Et on a aussi deux invités aujourd'hui. On va parler à Alexis Galarno, qui a remporté les grands honneurs d'un tournoi.
Un champion.
Alexis, c'est notre premier champion de tournoi au podcast. Et c'est également le premier qui revient pour une deuxième fois au podcast. Et Nicolas, tu sais, on se souvient toujours des premiers?
Oui, ça c'est les premières fois, toujours marquantes.
Alors, Alexis nous marquera doublement. Et on a aussi Melissa Boyd avec nous qui a gentiment accepté d'embarquer avec nous dans le projet. Elle va coordonner nos médias sociaux. Alors, on l'a invitée sur le podcast pour la présenter puis parler tennis avec elle parce qu'elle connaît quand même beaucoup ça, le tennis. Elle le suit. C'est une ancienne gestionnaire de médias sociaux de Tennis Canada qui maintenant travaille à son propre compte. Alors, elle va venir jaser avec nous. On va évidemment parler de Félix Auger-Aliassime, de Milos Raonic. Ça brasse dans le clan Zverev. On va l'effleurer un peu, mais on va en parler plus amplement avec Hugues la semaine prochaine. Nicolas Richard, es-tu prêt?
Ok, oui.
Version originale de l'intro sans Hugues Léger. Avant qu'on présente nos invités, je veux faire un petit clin d'œil à un podcast il y a deux semaines parce que je te parlais de Mario Tennis la semaine passée et tu semblais pas trop savoir c'était quoi. J'ai de la misère à croire que tu n'as pas joué à ça parce que moi j'ai passé des heures. En tout cas, c'est ta chance de commencer et tu pourrais commencer contre Bianca Andreescu. Qui a annoncé qu'elle va participer à un petit challenge Mario Tennis sur la Nintendo Switch. Honnêtement, je prendrais ma chance. Ce serait probablement ma seule chance de battre Bianca Andreescu au tennis.
Ben, c'est pas une première non plus. Il y a plusieurs joueurs, plusieurs personnalités connues qui s'incrustent dans le monde du jeu vidéo pour rejoindre leurs amateurs, leurs partisans. Je pense notamment à Naomi Osaka qui a fait ça aussi l'an dernier. Je pense à Alexandria Ocasio-Cortez, une politicienne qui pour pouvoir gagner ses élections, s'est rapproché de ses électeurs en jouant à ce genre de jeu. Donc, c'est une nouvelle initiative pour rejoindre la base partisane. Puis, bon, comme tu l'as dit, de jouer contre une championne de Grand Chelem, ben, c'est jamais de refus.
Surtout avoir la chance de la battre.
Ben, c'est surtout ça. Tu pourrais le dire une fois dans ta vie, dans ta bio Instagram, j'ai battu Bianca Andreescu.
Exact. Et parlant de battre un adversaire, on a un invité de marque, on en a parlé en introduction. Alexis Galarno, bienvenue pour la deuxième fois au podcast. C'est le premier invité qui revient, notre premier champion de tournoi professionnel avec nous. Bienvenue, Alexis. Comment merci, ça va? Merci.
Ça va bien, et vous?
Ça va bien, merci. On t'a invité à la dernière minute sur le podcast et on est très content de t'avoir parce qu'on voulait te féliciter en personne pour ton premier titre professionnel. Comment est-ce qu'on se sent après un premier titre comme ça?
Un soulagement. C'était ma deuxième finale, donc c'est sûr que je voulais une revanche de ma dernière fois il y a deux ans. Fait que super bon feeling. Puis je vais essayer de garder ce momentum-là pour cette semaine.
Et je me demandais, vas-y Alex.
Non, vas-y Nico.
Je me demandais, tu sais, un premier titre comme ça, je sais pas, en n'étant pas sur les lieux, s'il y avait des spectateurs ou pas, mais commencer de gagner un premier titre en silence ou à peu près?
Ouais, c'est quand même spécial. on s'habitue à pas avoir de partisans. C'est sûr que j'aurais aimé ça gagner devant ma famille ou même devant les partisans. Donc, mais on s'adapte. Puis juste le fait de pouvoir jouer. C'est ça, c'était quelque chose que je pensais même pas pouvoir faire cette année, de jouer des tournois professionnels. Donc, c'est super encourageant. Puis, ça fait du bien de pouvoir jouer.
Et là, on voit que sur le chèque, tu as masqué le montant. Est-ce que c'est parce qu'il était trop gros, Alexis?
Oui, c'était trop. Non, c'est question de NCAA. Des fois, ils demandent de prouver les dépenses, tout ça. Donc, je sais qu'ils recommandent de souvent de garder ça un peu plus masqué.
Et en finale, tu as joué contre l'Équatorien Roberto Quiroz. Qu'est-ce que tu savais de lui avant d'arriver en finale?
Oui, je savais que c'était un très bon joueur, beaucoup d'expérience, gaucher, donc toujours faire attention au service gaucher qui est assez dur. Puis ensuite, j'avais regardé beaucoup de vidéos avant mon match, donc j'étais super bien préparé tactiquement, après mentalement, physiquement, donc tout était en place, puis je me sentais super bien, fait que ça a été... Le score, il reflète pas vraiment comment que ça s'est déroulé, parce que c'était quand même un match qui était très dur, mais j'ai bien managé ça.
Est-ce que c'était un adversaire que tu connaissais? Il était première tête de série de ce tournoi-là. Moi, c'est pas un nom qui résonne pour moi encore. Là, je suis pas un spécialiste des tournois qui incluent beaucoup de joueurs NCAA. Est-ce que c'est un joueur qui est sur le circuit de la NCAA?
Oui, il a joué en NCAA il y a peut-être 6-7 ans. Il a joué en Californie pour USC. Je pense qu'il a très bien fait sur ce circuit-là. Mais il joue surtout des challengers. C'est un joueur qui fait des quarts de finale, demi-finale de temps en temps. Fait que je savais que j'avais mes chances tous les joueurs en fait que je joue, je sais que j'ai des chances, donc c'est pas ça qui m'impressionne. Donc mais c'est comme j'ai dit, c'est un très bon joueur, puis beaucoup de respect pour lui.
Évidemment, ici au Québec, on n'a pas pu suivre avec beaucoup de détails le tournoi, mais est-ce que tu dirais que le match de finale a été le match le plus difficile à jouer?
Je dirais que c'est le match de quart de finale qui a été le plus dur. En fait, c'est un match qui est vraiment, tu sais, c'était vraiment up and down. Donc, il y a eu, je pense, 6-7 bris de service au premier set. Ensuite, je pars à la deuxième manche, 6-3, seulement un bris. Puis après ça, un autre bris pour terminer la manche, la manche ultime. Donc, c'était un match qui était vraiment up and down. Fait que ça, c'est jamais facile à jouer. Mais c'est sûr que la finale, c'était quand même assez dur. Il y avait un peu de nervosité. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué de finale, donc je dirais que le quart de finale puis la finale, c'était les deux plus durs.
Félix, t'as félicité sur Twitter. Est-ce que vous avez échangé quelques mots, peut-être par téléphone ou par message texte? Peux-tu nous révéler la nature de cette conversation-là?
Ouais, non, mais on se parle à chaque semaine, puis je suivais son tournoi de double assez proche, parce que je savais que c'était intéressant, c'était deuxième tournoi qu'il jouait avec Hubert Ukratz, donc c'était intéressant, puis c'était le fun à regarder, puis on se parlait à chaque jour, puis finalement, je gagne ma demi-finale, puis lui, il venait de gagner sa demi-finale, puis on se taquinait, on se disait qu'on est dû pour en gagner une finale. Puis on est allé 2-2, donc des bons résultats.
Est-ce qu'il y avait une petite gageure entre vous, là, qui êtes des bons amis, qui va remporter le premier titre en 2020, puis là, ben ça donne que c'est la même fin de semaine?
Ouais, fait que toutes les bêtes sont cancellées, malheureusement.
Ben, maintenant, tu as un gros chèque pour pouvoir miser de l'argent. Tu peux y échanger ton gros chèque contre son gros chèque, peut-être. Qui sait? Mais sans dire long quand même sur Félix, hein, de prendre le temps de féliciter un ami qui joue dans un tournoi. On va se le dire, là, c'est quand même, c'est pas un tournoi d'une ampleur de Masters 1000, là, et qui quand même prend le temps de dire félicitations, parce que c'est quand même tout un accomplissement, et le monde ne se rend pas compte à quel point le niveau de tennis est élevé dans ces challengers-là. Il faut le voir de ses propres yeux, je pense, parce que entre la fin du top, mettons, 300 et le début du top 100 jusqu'à, je sais pas, le 90, 70, il n'y a pas toujours une si grande différence que ça entre les joueurs. Hein?
Non, en effet. C'était, en plus, vu qu'il y a moins de tournois qui sont cédulés cette année, les tournois sont encore plus forts. Donc, non, c'était un tournoi qui était dur, puis je suis fier d'avoir gagné. Mais c'est ça, Félix, c'est, pour moi, il m'aide énormément. justement, pour la finale, des petits conseils qui m'ont aidé. Puis sinon, c'est juste, à chaque jour, ils osent la barre pour nous, pour qu'on croit en nos talents ou notre travail. Fait que c'est, il y a un gros impact sur nous, les plus jeunes.
Et sur le plan sportif, bon, Félix a remporté son tournoi en double, mais aussi une actualité qui est pas banale aussi, c'est que Félix s'est séparé de son entraîneur des 6 dernières années, Guillaume Marx. Est-ce que tu peux nous expliquer, à votre niveau, à quel point la relation entre un entraîneur et un athlète est importante?
C'est ce qui est le plus important, je pense, parce qu'on passe tellement de temps à l'extérieur des terrains avec nos coachs, nos physios, ou peu importe qui est alentour. Puis, mais je pense, je connais pas trop les détails, mais après, je pense qu'ils ont eu une très bonne relation. Puis, j'ai eu la chance de les côtoyer plusieurs fois pendant les tournois, puis voir comment ils travaillaient ensemble. C'était vraiment une très bonne équipe. Mais des fois, je pense que des petits changements, ça peut aider, puis ça rafraîchit un peu le travail, puis tout ça.
Parce qu'on l'a vu aussi avec Bianca, lorsque Sylvain Bruno est devenu son entraîneur à temps plein, ben son ascension a été vraiment fulgurante. Puis c'est vraiment à ce moment-là que Bianca est devenue vraiment une championne de Grand Chelem, disons-le. Fait que cette relation-là est peut-être des fois sous-estimée, je trouve, surtout au tennis, où c'est un sport individuel. Mais ce qui se fait en arrière-scène, c'est tellement important. Puis tu fais bien le souligner.
En effet.
Quelle a été la réaction de tes coéquipiers de l'université? Parce que il y a quelque chose de... Le tennis, c'est un sport individuel, très individuel. Tu sais, puis on voyait Kyrgios cette semaine dire à quel point vous avez aucune idée à quel point on est tout seul. Mais dans le sport universitaire, tu as l'avantage d'une certaine manière de ne pas être si seul que ça. Ça a été comment la réaction de l'équipe?
Ouais, j'ai eu tous mes coéquipiers, m'ont félicité. C'est aussi pour moi, je suis content de leur montrer que le travail ça paye, puis aussi leur montrer que c'est faisable de gagner des tournois professionnels. Puis donc tu sais, il y a eux qui viennent de rentrer à l'université, ben j'essaie de leur montrer l'exemple, leur prouver que c'est possible. Fait que c'est je suis content de pouvoir représenter l'université, puis de faire un peu comme Félix fait pour nous, les joueurs canadiens, c'est de montrer l'exemple, tout ça.
Est-ce qu'un titre comme ça peut changer les plans un peu pour toi à court ou moyen terme, ou est-ce que le plan, c'est de rester à l'université et de compléter ton stage universitaire?
Ouais, j'ai décidé de prendre une 5e année juste parce que avec les conditions qu'on avait en ce moment, il n'y a pas beaucoup de tournois professionnels, donc moins d'opportunités de jouer. Ensuite, j'ai une bonne base d'entraînement ici. Fait que c'est sûr que oui, gagner un tournoi professionnel, c'est super. Ça me prouve que qu'est-ce que je fais en ce moment, ça paye, puis c'est ce que je dois continuer de faire. Mais je pense qu'il faut que je continue d'être patient, continuer de m'améliorer, puis c'est à force de jouer de plus en plus, je pense que c'est là que je vais commencer à être encore plus confortable, prendre confiance. Fait que là, c'est quand même un beau challenge demain. Je joue contre Mackie McDonald dans un challenger. Donc, je joue avec une belle confiance en ce moment. Donc, ça va être intéressant de voir.
J'ai une question pour toi qui sort un peu des cadres du tennis. Bon, tu es expatrié depuis quelques années aux États-Unis. Là, ton tournoi est en Arkansas. Comment tu as vécu les derniers jours sur le plan, bon, les élections? Comment tu as pu saisir ce qui se passait? Parce qu'à Saint-Jérôme, il n'y avait pas grand monde dans les rues pour célébrer la victoire de Biden. Donc, au cours des derniers jours, des dernières semaines, comment toi, un Québécois qui est arrivé aux États-Unis, a vécu ça?
Je l'ai vécu à Raleigh pas mal plus, deux, trois semaines avant les élections. Il y avait des manifestations qui se passaient les vendredis, samedis. On avait des couvre-feux à 10h. Fait que c'était quand même assez strict. Les gens, ils savaient qu'il y avait quand même des tensions et tout ça. Puis aussi, on sentait que les élèves étaient très, très impliqués. On a un cinéma dans notre complexe d'appartement. Puis le cinéma était complet pour les débats.
Ah ouais. Hein?
Il y avait de l'intérêt qui était présent. Puis sinon, c'est toujours les gros pick-up avec les gros drapeaux, soit Trump ou Biden. C'était le fun à vivre. Puis ça fait du bien que ça soit terminé. Là.
Ouais.
En fait, on l'espère.
Et là, c'est quoi le plan pour toi sur d'un point de vue tennis à court moyen terme? Là, tu dis que tu es dans un autre tournoi. Où es-tu présentement et quel est le plan pour les prochaines semaines pour toi?
Ouais, j'ai reçu un laissez-passer pour le tournoi de Kerry, un Challenger 80 000. Donc, je joue demain ma première ronde à midi contre Mackie McDonald, qui était aussi un joueur universitaire. Style de jeu quand même semblable au mien, fait que ça va être intéressant. Ensuite, je me suis inscrit à deux tournois en République dominicaine. Donc, on va voir s'ils vont vraiment se dérouler parce que il y a eu plusieurs tournois qui se sont cancellés dernière minute. Ça reste à voir. Sinon, je vais retourner à Laval pour m'entraîner avec Nicolas Mamba, Félix, si jamais il est en ville. Donc, non, ça va faire du bien de retourner à la maison aussi.
Hein. Et là, avec la finale, te sens-tu drainé ou au contraire, t'es comme catapulté vers une nouvelle forme, là?
Ouais, je pense que je me sens bien. C'est sûr, il y a des petits bobos, mais on est chanceux. Il y a toujours des physios sur le site. Puis j'essaie de prendre soin de mon corps. Fait que non, je me sens bien. Puis je suis encore jeune, donc on en profite.
Tu as mentionné Nikas avant qu'on te laisse aller. Comment est-ce qu'il va, Nikas, qui a été un des bons joueurs juniors à l'époque. Et là, il joue du côté de la NCAA également. C'est aussi un bon ami à Félix. Comment il va? Il faudra l'inviter pour prendre de ses nouvelles, mais en attendant. En attendant,
Nikas, il va super bien. Justement, il était en Arkansas avec moi. Il a connu un dur match en dernière ronde des qualifications contre un bon joueur qui était très dur à jouer. Puis ensuite, on a joué en double ensemble. On a gagné notre première ronde, mais ensuite, on a perdu au set ultime. C'était dommage, mais c'était bien de pouvoir compétitionner ensemble.
Il doit être rendu à 8 pieds parce qu'il avait 14 ans, il mesurait à peu près 6 pieds. Alors, il doit être rendu grand pas à peu près.
Ouais, une bête.
Alexis, on va te laisser aller te reposer pour le tournoi. On te souhaite d'aller le plus loin possible dans ce challenge-là qui est quand même un autre niveau si c'est un 80 000 $. Félicitations pour cet exploit et on te le répète, tu es le bienvenu. Quand tu veux sur le podcast sur la ligne, Alexis. Et félicitations et puis bonne continuité, mon gars.
Merci à vous.
Bye bye, Alexis. Soirée.
Bye.
Une super vedette, ce gars-là.
Quel charmant jeune homme. Ce qui m'impressionne le plus de cette génération-là, des Félix, bon, des Alexis, des Layla, des Bianca, des Denis, c'est à quel point si on compare à d'autres sports, et je nommerai aucun sport, mais à quel point ces jeunes-là sont articulés, brillants, posé, mature, ça m'impressionne et ça me renverse à chaque fois.
Non, honnêtement, je vais souhaiter qu'il continue une longue carrière de tennis pour pas qu'il vienne nous voler notre travail parce qu'il pourrait le faire demain matin. Il pourrait le faire demain matin. Quel gentil garçon. Et puis, je le disais, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le calibre de tennis, que ce soit NCAA ou Challenger. Et des fois, tu envoies des joueurs qui ont fait le circuit Challenger assez longtemps et qui finalement finissent par se retrouver sur le circuit de l'ATP et font des résultats probants. Alors, Alexis, quel chic type. Et parlant de chic type, ben, on va présenter une autre chic personne qui a accepté de travailler avec nous. Melissa Boyd, une ancienne gestionnaire de médias sociaux de Tennis Canada qui est maintenant travailleur autonome. Comment ça va, Melissa?
Ça va bien, vous autres?
Ben, ça va bien, merci. Toi, tu l'as connu, Alexis. As-tu un petit mot à nous dire sur Alexis de ton temps à Tennis Canada?
Oui, ben, je pense que vous l'avez tout dit tantôt. Un chic type, vraiment. Toujours fin et toujours, à chaque fois que je le voyais, c'était toujours, il voulait prendre mes nouvelles, c'était toujours, il voulait prendre un petit moment pour jaser, puis je vois que c'est la première fois que je le vois depuis que j'ai quitté Tennis Canada, alors c'était super bien, puis je vois qu'il y a zéro changé, et oui, un gars avec beaucoup de talent aussi, puis qui connaît encore beaucoup de succès au niveau NCAA, fait que je suis toujours aussi fier de lui, là, qui a trouvé sa place.
Toi, tu l'as vécu de l'intérieur, mais tu sais, les challengers, le monde n'a aucune idée à quel point c'est fort comme tennis. Là. C'est, ça n'a rien à voir avec... Si on compare ça avec le hockey, tu as des joueurs facilement qui seraient en challenger, qui se retrouvent dans les 500-600 mondiales, qui joueraient dans la Ligue nationale de hockey, là, si tu fais une espèce de comparaison. Là. Alexis, c'est quel bon garçon. Mélissa, parle-nous un peu de toi. D'où ça part, toi, ta passion du tennis?
Ça part de ma grand-mère, en fait. c'est elle qui m'a un peu introduit au sport. Mais j'ai toujours été fan de sport, tout sport confondu. Si ça jouait à la télé, ben, je le regardais, puis je le suivais, puis j'essayais de... J'apprenais plein de choses. Mais vraiment, quand j'habitais avec ma grand-mère pendant que j'allais au cégep, elle écoutait le tennis le soir où je me suis un peu embarquée là-dedans, puis j'étais accro dès le début, puis ça nous a créé une belle entre nous, c'était notre truc. Puis je me rappelle quand j'étais à l'école, elle m'enregistrait tous les matchs pour que je puisse écouter à la maison, en revenant à la maison. Puis c'est ça, fait que c'est elle qui m'a introduit au sport. Oui, puis j'étais très choyée de pouvoir faire une carrière avec Tennis Canada pendant plus de 10 ans au tennis. Fait que c'était vraiment un job de rêve pour moi.
Et là, on te ramène par la bande dans le tennis. Merci beaucoup d'accepter avec nous de nous donner un coup de main. Le monde ne le sait peut-être pas à la maison, mais moi, Nico, on fait ce podcast-là bénévole. On le fait par passion, puis parce qu'on adore ça. Puis éventuellement, on veut que ça devienne plus gros et on verra où ça va l'amener. Mais pour l'instant, on embarque tout dans ce projet-là par passion. Puis c'est la même chose pour toi. Puis je veux que tu saches qu'on l'apprécie. Alors, il y a des bonnes chances que si vous intéressez avec nous sur nos plateformes sociales, ben ça se peut que ce soit Mel qui sera derrière ça. Moi et Nico, on va peut-être intervenir également, mais pour l'essentiel, ça risque d'être Mélissa. Alors Mélissa, peux-tu nous dire sur quelle plateforme on va être?
Donc on va commencer sur Facebook et YouTube, et ensuite on va voir. On va les bâtir parce que je pense que c'est les meilleures plateformes pour des podcasts. Et il y a déjà beaucoup de gens intéressés au podcast sur ces plateformes-là. Et ensuite, on va, lorsque si les plateformes vont être bâties, on va aller sur Instagram. Et si jamais je me lance dans TikTok, ben peut-être vous allez nous retrouver là à un moment donné. Mais il faut, avant tout, il faut que je m'habitue avec cette plateforme parce que je ne sais pas, c'est peut-être mon âge, là, mais je ne comprends rien encore.
Ben on va t'aider parce qu'éventuellement, on va être aussi sur TikTok parce qu'évidemment, le podcast, il vise à aller chercher un public un peu plus jeune que peut-être le public traditionnel du tennis. Et c'est un peu le mandat du podcast. Nico, tu allais ajouter quelque chose?
Tu disais, toi, c'était bénévole?
Non. Tu veux dire comme si nous on était payés, puis elle allait embarquer bénévole. Oui, c'est ça. Nico, c'est notre secret.
C'est correct. Non, mais c'est correct.
Mais non, c'est sûr. Merci d'embarquer avec nous. C'est vraiment un grand plaisir pour nous.
Pour qu'on apprenne à te connaître un peu mieux, Mélissa, toi, est-ce que tu es plus team Federer ou team Nadal? C'est bien important ici.
Oui. Mais écoute, je dois dire Federer.
Bravo.
J'ai eu la chance de côtoyer Nadal souvent à la Coupe Rogers. Et je dois dire qu'il est quelque chose aussi. on est vraiment gâtés de pouvoir vivre cette génération. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment deux légendes. Et deux athlètes tellement fins, généreux. Et je veux dire, c'est ça. C'est comme si... il marche. Je me rappelle, il arrivait dans une salle, puis c'est comme si... tout le monde.
Comme c'était Dieu, là,
ouais. Ouais, vraiment, là. C'est comme... il y avait quelque chose autour d'eux, là. Un homme autour d'eux, là. Un genre de... C'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment... c'est ça. J'ai côtoyé quand même des athlètes professionnels dans ma vie, mais ces deux-là, c'est vraiment quelque chose d'un autre niveau, ouais.
Nico, son un de ses plus beaux moments de la Coupe Rogers et possiblement son plus beau en souvenir, c'est un match fédéraire contre Vacek Pospisil à la Coupe Rogers.
Oui.
Moi, je l'ai couvert pendant 10 ans, j'ai des souvenirs aussi impérissables de ce tournoi-là. Toi, c'est quoi ton plus beau souvenir? Peut-être c'est un souvenir que tu as vécu de l'intérieur également, mais c'est quoi ton plus beau souvenir de la Coupe Rogers?
Je vais faire un pour les tournois des hommes, puis un pour le tournoi des femmes. pour le tournoi des hommes, c'est probablement 2013, peut-être.
La finale Raonic Nadal?
Non, alors c'était plus avant ça, 2011 alors. C'était une demi-finale Djokovic-Nadal. Et c'était fou. Le match était serré 3-7. Il y avait des Espagnols, il y avait des Serbes. C'était fou. Les estrades étaient bondées. Et j'ai jamais vécu une atmosphère comme ça pour un match de tennis. Et c'est Nadal qui a gagné. Et en fait, c'est l'année qui a affronté Raonic en finale. Donc, le premier 2000, le final Masters 1000 de Raonic. C'est ça, il a affronté. Mais c'est ça, c'est juste l'atmosphère, tu sais, un match en soirée, un samedi soir à Montréal, c'était incroyable. Ouais.
Ouais, mais il n'y a pas grand-chose qui bat un match en soirée.
Non.
Avec des vedettes au mois d'août, avec tout ce qui entoure la Coupe Rogers. Et puis, au-delà de la Coupe Rogers, tu as vécu des expériences assez intéressantes dans d'autres tournois Masters 1000 aussi. Tu as vécu peut-être un de mes fantasmes tennistiques, je vais le dire comme ça, Indian Wells.
Indian Wells, oui. Deux fois. Une fois comme spectatrice et une fois, j'ai eu la chance d'aller travailler là quelques jours pour Tennis Canada. Et écoute, c'est tout un tournoi. Si vous êtes amateur de tennis, il faut que ce soit sur ton bucket list pour y aller. C'est juste, premièrement, l'endroit en Californie, à Indian Wells, c'est juste autour, c'est juste tellement bien placé. Puis, je sais pas, c'est dur à expliquer. Mais c'est honnêtement, puis aussi j'ai eu la chance d'aller au US Open aussi, mais c'est complètement un vibe différent. Le US Open, c'est juste que c'est bondé de monde tout le temps. Là. Ça rentre le soir, là, c'est incroyable comment il y a du monde sur le site en même temps. Et tu vois que c'est un party, mais Indian Wells, c'est autre chose parce que la foule est un peu différente. C'est un peu, mais c'est tellement, si tu es fan de tennis, il n'y a rien de mieux que Indian Wells.
Nico, semble-t-il que de pouvoir regarder un match de tennis avec le soleil qui se couche sur les montagnes à Indian Wells, là, il paraît qu'il n'y a pas grand-chose qui accote ça. Et moi, j'aimerais ça le vivre. On s'organisera peut-être un podcast en direct d'Indian Wells.
En direct de la Californie, voilà.
Mais c'est ça qu'il faut aussi avoir Wimbledon sur le bucket list. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance encore, mais il faut. Mais Indian Wells, c'est pas loin derrière.
déjà un beau parcours. Merci pour ces anecdotes-là. Mel, est-ce que tu restes avec nous jusqu'à la fin du podcast?
Bien sûr, t'es le bienvenu.
parce qu'on va parler un peu d'actualité. Nico, lance-nous donc sur un certain Félix Auger-Aliassime.
Oui, Félix Auger-Aliassime qui remporte son premier titre chez les professionnels, un Masters 1000 de Paris avec son coéquipier Hubert Huckart, le duo surnommé Ubélix depuis leur récent succès, qui l'emporte contre Matepevic et Bruno Suarez, qui avaient remporté déjà le US Open ensemble et en plus d'être finaliste à Roland-Garros. Donc, tout un défi pour les deux jeunes joueurs qui étaient seulement à leur deuxième tournoi ensemble. Victoire de 6-7, 7-6 et 10-2. Ils ont sauvé 5 balles de match. Gros tournoi, puis ça va faire du bien à Félix parce que même si c'est une victoire de double, ben une victoire, c'est une victoire. Et Félix, qui on en parlait depuis plusieurs semaines, c'était coup-ci, coup-ça sur le plan des résultats. Mais là, revient avec une victoire. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour Félix, lui qui reste un tournoi à jouer là, d'ici la fin de la saison. Donc, finir en beauté la saison pour Félix, je pense qu'il n'y avait rien de mieux. Surtout, lui, on en reparlera, mais qui vient de divorcer avec son entraîneur de longue date. Donc, je pense que c'est un bon pour lui, ses récents succès.
Ben, au final, ça reste une bonne fin de saison d'une certaine manière, parce que bon, il a bien fait à Cologne, et là, bon, à Paris, ça a été plus compliqué, mais le titre en double, c'est quand même une performance très, très, très positive dans un tournoi très relevé comme un Masters 1000. Alors, quant à moi, c'est quand même très, très, très positif ce qui se passe dans le cas de Félix présentement.
Et d'autant plus, c'est la manière dont ça a été fait. Je veux dire, battre des champions Grand Chelem et de revenir de l'arrière avec des sets extrêmement serrés. Félix, on doutait un peu de son désir de vaincre là, dans les dernières semaines, on en parlait. Ben, il a su faire face à l'adversité et donc remporter un titre qui est grandement mérité.
Un titre, ça vaut beaucoup, puis je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance pour la pré-saison, parce que je pense qu'il n'est sûrement pas à 100% satisfait de ses résultats en simple depuis le retour au jeu. Donc, pour pouvoir avoir ce titre pour bien finir l'année, ça va lui faire un grand bien, je crois.
Et on pourra sonder nos gens sur les médias sociaux. Mel, tu pourras garder ça en tête. Oui. Préférez-vous Pospisox ou Ubilix?
moi, c'est Ubilix. Écoute, je trouve ça vraiment, c'est vraiment génial.
Ah ouais, moi aussi, je préfère Ubilix.
Ça rend dans un livre, ça.
On parle des Canadiens aussi. Il y a Mila Soranic qui a très bien fait avec une demi-finale contre l'éventuel champion d'Alin Medvedev. Raonic qui aussi, ça fait souvent qu'on le répète, Alex, depuis le début du podcast, on parle toujours de Denis, de Félix, de Bianca, mais de Miloš. Et jamais loin derrière en disant « Hey, oublie-moi pas, je peux encore donner de l'excellent tennis. » Puis c'est ce qu'il a fait à Paris dans un gros tournoi quand même.
Ben, il y a certainement un débat à avoir depuis le retour de la pandémie. Qui est le meilleur joueur canadien? Et si tu me dis Miloš Raonic, ça se défend très bien parce qu'il a eu beaucoup de bons résultats. Chapeau a bien fait aussi là en Grand Chelem, mais Miloš c'est jamais bien loin. Et moi, je te dirais possiblement que c'est Miloš le meilleur joueur canadien présentement de par sa constance dans les résultats. Et puis, si c'était pas de peut-être petite blessure, il serait peut-être allé encore plus loin dans certains tournois. Alors, ça se poursuit pour Miloš. Et c'est quasiment dommage que la saison ait été écourtée d'une certaine manière, parce que la façon dont il joue, peut-être qu'il aurait pu se faire une place au tournoi de fin de saison à Londres de par la constance de ses résultats. Là, évidemment, c'est pas lui qui va être là, mais il aurait pu se donner une chance légitime à tout le moins de le faire s'il y avait eu plus de tournois à jouer. Je pense, en tout cas.
S'il aurait décidé finalement de jouer avant Garros, peut-être qu'il aurait, parce qu'il était proche quand même. Je pense qu'à un moment donné, c'était s'il gagnait le tournoi, en tout cas, s'il gagnait Paris, il pouvait rentrer, en tout cas. Mais ça montre à quel point aussi ça, justement, sa constance, puis aussi son niveau, surtout à l'intérieur, sur une surface plus rapide. Pour moi, pour le moment, il est le meilleur joueur canadien, oui.
J'espère qu'il va rester en santé, parce que je regardais le match justement avec mon père, puis le commentaire qui me passait en toute fin de match, c'est « Mais ça, Miloš a l'air flat, a l'air comme, je sais pas si il traînait une blessure, je sais pas si... » En tout cas, j'espère que c'est pas ça, parce que Miloš et les blessures, bon, ça va souvent de pair là, au cours des dernières années, mais j'espère que, bon, la saison finit bientôt, donc s'il traînait une blessure, ça pourra se rétablir. Mais j'espère pour lui qu'il va rester en santé, puis poursuivre sur cette belle lancée qu'il s'est donnée.
En tout cas, c'est certainement positif pour ce qui se passe pour le début de saison qui va être à venir en Australie. Et moi, ce que je suis content de constater, Nico, on s'est posé la question il y a quelques semaines, est-ce que Miloš Raonic va revenir dans le top 10 d'ici la fin de sa carrière? Eh bien, il est pas loin. Il est 14e mondial pour l'instant. Il joue bien. Alors peut-être que ce sera plus tôt que plus tard. Et on te fera mentir, Nico. Je ressors la clé si jamais il arrive dans le top 10. Mélissa, tu es peut-être celle qu'il connaît le mieux personnellement parce que tu étais là quand il était au Centre national. Il est comment comme personne, Milos?
Très sérieux. Pour lui, son jeu au tennis, c'est son carrière, sa carrière. Donc, il traite de la sorte. Il travaille fort. Tout ce qu'il peut faire pour qu'il devienne un meilleur joueur, il le fait. Il n'y a aucun sacrifice qu'il n'est pas prêt à prendre. Je sais que souvent, plusieurs fois, il a changé, par exemple, son alimentation. Il a essayé plein de trucs, la méditation, plein de choses. Fait que tu ne peux pas avoir un gars qui est plus sérieux et plus professionnel. J'ai toujours dit, tu sais, je veux dire, tout le monde, avec raison, parle de Dennis et Félix, mais selon moi, sans Miloš, il n'y a pas de Dennis et de Félix. Et parce que lui, écoute, il donne l'exemple, vraiment. Il donne l'exemple dans la façon qu'il joue, dans la façon qu'il se prépare, mais aussi dans la façon qu'il s'exprime. Aussi, vous l'avez probablement souvent entendu aux États-Unis pendant Cincinnati et au US Open, à quel point il parlait bien, non seulement qu'il est conscient de ce qui se passe dans le monde, puis l'important d'être en sécurité pendant la pandémie et tout ça. Donc, c'est vraiment un ambassadeur, bon ambassadeur pour le tennis canadien, oui.
Ouais, il a conquis le public montréalais, québécois, canadien extrêmement rapidement. Là, dès ses premiers matchs, ses premières apparitions à la Coupe Rogers, déjà il est un préféré de la foule, non seulement parce qu'il était canadien, mais par sa dégaine, parce qu'il était sympathique, parce qu'il inspirait confiance. Tu l'as dit, un ambassadeur extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui lui tapent sur la tête au cours des dernières années, comme quoi il est peut-être moins constant, comme quoi il a de la misère à rester au sommet. Mais n'en demeure pas moins que Miloš, ça m'a l'air d'être un sympathique gaillard. Puis je lui lève mon chapeau parce qu'à un certain moment, il était le seul de sa troupe là, comme Canadien. Tu l'as dit, un ambassadeur, un des premiers avant que la nouvelle cohorte arrive. Mais il a vraiment défriché le terrain puis il a su se faire aimer rapidement et c'est pas pour rien.
Ouais, semble-t-il que c'est un étudiant hors pair aussi. C'est ça que André Barrette me confiait. On en a déjà parlé, mais semble-t-il qu'il était même en avance sur son cursus scolaire. Alors, et moi, les fois où j'ai eu à l'interviewer, j'ai toujours trouvé que c'était un chic type. Je le connais pas personnellement, comme j'ai pu connaître un petit peu plus Félix ou cette génération-là, du moins, parce que c'est drôle parce que Miloš, il était un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Tu sais, moi, je me souviens exactement de où j'étais quand j'ai commencé, quand Miloš est tombé sur mon radar. J'étais à TVA Sport comme rédacteur et puis je me souviens le tournoi de San Jose. Et là, il y a un Canadien qui pop encore ou en demi-finale. Là, je suis comme, voyons, c'est qui ce Canadien-là? Puis je ne savais pas ça. Autour de 2011, je pense. En tout cas, c'est au début de TVA Sport. Puis je me souviens avoir fait comme, c'est qui ce Canadien-là qui est en demi ou quart de finale? Moi, les espoirs, je les suis beaucoup, les jeunes, je les connaissais pour l'essentiel. Et là, Miloš, lui, il est comme sorti de nulle part à San Jose, il est allé remporter le tournoi. Et puis moi, c'est là qu'après ça, il est comme tombé sur le radar mainstream parce que, bon, c'est un Canadien qui remporte un tournoi de l'ATP, mais je pense que même Mel à Tennis Canada, on s'attendait pas à ça, là.
En fait, c'est vraiment Louis Borfiga, le directeur du développement du tennis à Tennis Canada, qui l'a vraiment, qui l'a comme catché tout de suite. Il avait son œil tout de suite en arrivant quand il est arrivé de la France. Il a vraiment, il voulait, ça c'était son modèle, là, il voulait. Pour lui, Miloš avait le plus de potentiel dans le groupe à ce moment-là. Puis, c'est ça. Donc, il a vraiment pris sous son aile un peu. Puis, c'est vraiment non. Mais, tu sais, même quand il y avait, je me rappelle, tu sais, moi, j'ai commencé quand il jouait les Futures, les tournois Futures à Montréal, à Sherbrooke, à Gatineau. Écoute, il était pas encore, en forme comme il est aujourd'hui, puis on s'entend qu'il est super grand, mais il était maigre, mais il avait des jambes jusqu'à... Puis il avait aussi... Il était très émotif sur le terrain aussi, quand il était jeune. il a quand même réussi à se calmer un peu. Puis il a beaucoup changé ça, mais ouais, non, c'est drôle. Oui, mais c'est vrai qu'il est sorti un peu de nulle part, comme, parce que même nous, au Tennis Canada, on était comme, on sait c'est qui, puis il était comme partenaire. À un moment donné, ils l'ont invité à la Coupe Davis pour être partenaire de frère, puis là, tu sais, il est arrivé au Centre national à Montréal, puis on était comme, wow, tu sais, il servait là, à l'intérieur, là, au Parc Jarry, puis c'est comme, my God, il sort de où, ce gars-là? Ouais.
Toi, Alex, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Milos, ce qui a peut-être aidé son ascension, c'est que c'est un gars de highlight. C'est un gars de fait saillant, notamment, mais il l'a dit à cause de son service. Tu as été rédacteur à TVA Sport, on a monté des bulletins de nouvelles, puis j'ai l'impression que Milos, sa notoriété, sa popularité vient beaucoup du fait de son service, qui est encore à ce jour un des meilleurs, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup aidé à sa montée en popularité. Est-ce que je me trompe?
Ben, c'est toujours spectaculaire. Tu sais, tu regardes, t'as des gars qui ont fait des carrières que sur leur service. Mmh. Un gars comme Ivo Karlovic, par exemple. Puis, tu sais, je vais pas faire de comparaison boiteuse, mais Andy Roddick, c'est un peu ce qui a fait sa réputation aussi, qu'il y avait tout un service. Bon, Andy Roddick, on parle quand même d'un joueur talentueux qui a été numéro un mondial, mais Milos, il se rapproche dangereusement de talent comme celui d'Andy Roddick. Il a été dans le top 5 mondial, il a été finaliste de Grand Chelem. Alors, puis tu sais, on en parlait il y a quelques semaines, tu sais, ça fait presque 10 ans qu'il est dans le top 20 ou top 30 mondial. C'est phénoménal comme carrière, là. Alors, tout ça pour dire que moi, je suis très content pour Milos de voir comment les choses se traduisent pour lui présentement. Et Nico, tu fais bien le souligner, il n'est pas parti, Milos, et présentement, moi, je suis d'accord avec Mélissa, il est le meilleur joueur canadien sur le circuit présentement.
Mais ça vaut aussi son pesant d'or du fait qu'il s'est incliné à Paris contre l'éventuel champion. Ça en dit long aussi, tu perds pas contre n'importe qui. Tu perds contre un champion. Et Alex, me permets-tu de juste revenir sur Paris pour qu'on parle de Medvedev quelques instants? Parce que la semaine dernière, on a beaucoup parlé de Rublev, qui est quand même le joueur de l'or sur le circuit, je pense. On se posait même la question, est-il le meilleur joueur en 2020 avec Djokovic? Et ça, bon, c'est extrêmement intéressant. Mais un autre Russe qui se distingue à Paris, et c'est Medvedev. Et je pense que ce qui impressionne au-delà de sa victoire, c'est la manière dont il l'a fait. Je vous nomme les gars qui l'ont battu pour remporter le tournoi. Anderson, Demainor, Schwartzman, Raonic, Zverev. Je veux dire, c'est un tableau extrêmement compliqué, peu importe le tournoi, et il l'a fait, je dirais même avec un peu d'arrogance, aisément.
C'est honnêtement un tableau de la mort.
Ben oui.
Je veux dire, Alex de Minaur, c'est un des meilleurs jeunes joueurs sur le circuit. Kevin Anderson, c'est un finaliste de Grand Chelem qui a été dans le top 10 mondial, qui a un des plus gros services sur le circuit. Schwartzman, c'est un des joueurs de l'heure présentement sur le circuit. Il va participer au tournoi de fin de saison. Il va être du Masters de Londres. Milos, on vient d'en parler pendant 20 minutes. Et Alexander Zverev, ben, c'est plus à l'extérieur du terrain que c'est compliqué dans son cas, mais... C'est quand même un joueur qui était allé jusqu'au bout ou presque là, au US Open et c'est un des meilleurs joueurs du circuit. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. C'est sincèrement un des tableaux les plus difficiles que j'ai vu dans les, j'oserais dire, les dernières années. Mélissa, oui. Es-tu d'accord avec ça?
Oui, mais je veux dire, mais Medvedev, quand il est à son meilleur, il est vraiment impressionnant. C'est évidemment le joueur probablement moins connu dans le top 5, puis des fois on se demande mais vraiment là, quand il est on là, il est tellement impressionnant à voir jouer là, il a tous les coups, puis il est capable de courir le baseline là, comme un fou là, c'est ça, je pense qu'il est comme très sous-estimé. Il n'a pas connu, un bon retour depuis les US Open. Fait que c'est un peu, ça sort pas de nulle part son titre, mais quand même, moi, au début du tournoi, je ne l'aurais pas choisi comme champion. Mais ça démontre de quoi il est capable là, quand il joue son joueur.
Je voulais vous poser la question, diriez-vous que c'est le joueur sur le circuit le plus sous-estimé, parce que c'est pas une grande vedette. On regarde sur les réseaux sociaux, c'est pas le joueur le plus suivi. Un gars un peu low profile, qui fait rarement des vagues, qui joue sa game, qui fait ses affaires, mais Donc, diriez-vous que c'est le joueur le plus mésestimé du circuit?
Ben, je ne sais pas. Je veux dire, le gars est quatrième mondial. Si quelqu'un sous-estime, il n'a pas écouté beaucoup de tennis dans les derniers deux ans. Je dis, tu ne peux pas être quatrième mondial puis sous-estimer un joueur. Tu veux dire peut-être sous-estimer au sens où il pourrait être numéro un mondial au moment où on se parle, peut-être.
Mais dans le sens où a-t-il la reconnaissance qui lui est due?
Ben, moi, je pense que oui. Là. Écoute, je peux me tromper, mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, nous-mêmes, moi, je l'avais en finale une fois de plus dans mon tableau du US Open. Je le vois toujours aller loin dans les tournois. Je pense qu'il a la reconnaissance qu'il mérite. On le place toujours parmi ceux qui pourraient dominer le tennis dans les prochaines années. Pour moi, c'est le plus bel espoir russe pour l'instant pour dominer le tennis pour les 10 prochaines années. Je le vois en avant de Rublev. En avant d'Achanov. Ben, parce qu'il a accompli plus que Rublev dans sa carrière présentement. Tu sais, c'est tout simple que ça. Puis on l'a vu à la Coupe Rogers, la dernière Coupe Rogers qui s'est tenue à Montréal. Il avait été tout simplement dominant. Puis c'était presque dommage qu'il n'y ait pas eu de match. Je pense que c'était en finale contre Nadal. Et puis Nadal, il avait donné toute une leçon. Mais il avait connu un parcours phénoménal, je pense, avec Cincinnati puis le US Open par la suite. Non, je pense qu'il a la reconnaissance qu'il mérite, en tout cas, personnellement. Là, peut-être que moi, j'ai le nez trop collé dessus, mais j'ai l'impression que, pour répondre à ta question, oui, il a la reconnaissance qu'il mérite.
Quand côté Mel, t'es toi qui es une fille de médias sociaux, penses-tu que, tu sais, parce que là où je vais aller, Alex, c'est vraiment, tu sais, je suis pas sûr que, mettons, l'ATP, s'ils veulent promouvoir un tournoi, je ne suis pas sûr que Medvedev est dans les premiers choix, dans les têtes d'affiche. Vous voyez où j'en venais dans le sens où je ne suis pas sûr que c'est vraiment le gars qu'on peut dire qui peut nous faire vendre des tickets. T'sais.
Mais c'est peut-être notre perspective nord-américaine, Nico, qui dit ça. Parce qu'en Europe, c'est peut-être une autre chose. J'ai de la misère à croire que s'il y a des tournois en Russie qui n'est pas sur...
Bien sûr. Mais tu sais, mettons, pour promouvoir le Masters de Londres, je ne suis pas sûr que c'est le premier nom qui vient en tête des organisateurs pour mettre sur l'étiquette d'entrée, tu sais.
Ben là, première des choses, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais je serais curieux de voir comment la promotion se fait en Europe. C'est sûr que nous autres, on garde un œil plus sur les peut-être les joueurs nord-américains d'une certaine manière, mais je comprends où tu veux en venir. Moi, pour répondre honnêtement et sincèrement à ta question, je serais curieux de voir ce qui se passe en Europe avec la promotion de ce tournoi-là, par exemple. Mais je sais que moi, personnellement, et je suis peut-être, comme je suis peut-être biaisé, mais si j'ai la chance de me déplacer pour aller voir Medvedev jouer, je vais le faire.
Ben, je pense que c'est aussi il y a une personnalité un peu. Moi, je l'aime, tu sais, il est très drôle, tu sais, il est très sarcastique dans les entrevues, puis même, je pense, hier, pendant la présentation du trophée, il a parlé de son équipe de fantasy football. Puis, tu sais, il est très drôle, il est très, tu sais. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que les gens le connaissent pas assez, connaissent pas lui assez pour vraiment avoir, tu sais, je vais acheter un billet pour le voir jouer, mais je pense que ça va venir. T'sais, le plus qu'on peut le mettre justement à la télé. Puis je me rappelle même au US Open, ils l'ont amené au ESPN Desk pour une entrevue avec Brad Gilbert et compagnie. Puis il a été super charmant, super. Puis tout le monde après on dit oh wow, tu sais, on savait pas qu'il pouvait être comme ça, là, tu sais. Fait que je pense que ça va venir, tu sais, avec plus d'exposure, c'est ça, avec des résultats, ouais. Je pense que c'est le prochain à gagner son premier titre du Grand Chelem, après Dominic Thiem, mais c'est ça, ouais. Mais je comprends tout à fait ton point, ouais.
Parierais sur lui, c'est un bon point que tu apportes. Moi aussi, je parierais sur Medvedev pour être le prochain à gagner son premier titre Grand Chelem. Et Nico, je ne sais pas si tu sais, mais il parle français, Daniel Medvedev. Mm.
Es-tu sérieux? C'est un francophile?
Il parle très bien français parce qu'il a grandi en Europe, dans la région de Monaco, entre autres. Il y a eu des entraîneurs qui parlaient français également. Alors, la dernière fois qu'il est venu à la Coupe Rogers, il parlait un français impeccable. Impeccable.
Oui, c'est ça. Les gens ont pu réagir comme ça, Nico. Ils ont fait « Ah, oui! » Ils ont été, ouais, fait qu'il était un peu, il a réussi à les avoir comme avec ça, là.
Mais c'est un charmant garçon, t'as vraiment raison. C'est un gars qui a un charisme à découvrir. Et puis, écoute, s'il veut venir au podcast sur la ligne, on va le prendre demain matin. Et j'en profite pour faire une plug d'ailleurs pour nos confrères du côté anglo qui ont une autre grosse prise. Là, leur prochain podcast, ils vont accueillir Kevin Anderson, si je ne me trompe pas. Alors, une autre bonne prise pour nos collègues de Matchpoint de Matchpoint Canada. Nico, je pense qu'on peut faire un petit wrap-up pour aujourd'hui. On va revenir la semaine prochaine avec Hugues Léger. On va revenir sur tout ce qui se passe avec Zverev. Il va nous parler de l'impact économique, d'un peu ce qui se passe sur...
Est-ce que la marque Zverev est entachée?
Oui, avec un peu tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain, les gens, je ne sais pas si vous êtes au courant de la situation, on ne rentrera pas là-dedans de façon prolongée, là, mais en gros, il a des problèmes...
conjugaux.
Il est accusé par son ex-conjointe de violence conjugale principalement. Alors, on va parler de comment ça peut entacher sa marque et j'invite les gens à aller lire l'article de Ben Rutherberg, qui est un journaliste américain. D'ailleurs, j'y ai écrit. J'ai lancé une invitation pour revenir sur le podcast. Je ne sais pas s'il va me répondre. C'est une bouteille à la mer, d'une certaine manière. La dernière nouvelle ne m'avait pas répondu, mais j'aimerais ça s'il peut venir nous parler du dossier Zverev parce qu'il a fait une entrevue assez complète avec l'ex-conjointe finalement de Zverev et c'est pour le moins troublant comme révélation, je vais dire ça comme ça. Puis je veux pas qu'on rentre plus dans le sujet là, pour l'instant, mais disons que ça frappe comme article. C'est un très bon article, très long, mais c'est un très bon article et j'invite les gens à aller lire l'article de Ben Rutherberg à ce sujet-là. Mais on va revenir avec Hugues Léger la semaine prochaine. Et possiblement que la semaine prochaine aussi, on aura des comptes médias sociaux à annoncer. Gracieuseté de Mélissa Boyd, que vous voyez dans le bas de l'écran.
C'est mon objectif. Oui, vous allez pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux.
Oui. Et on va pouvoir tweeter, on va essayer, ce sera on va avoir des plateformes sociales qui vont aller un peu plus large que le podcast que le podcast lui-même. Nico, t'es très habile sur les médias sociaux aussi, alors tu seras certainement impliqué
un influenceur. Promo code Nico25 pour 50% de rabais.
Non, mais tu dis toujours que t'es pas si grand média social que ça, mais je regarde ce que tu fais avec la radio.
On fait de notre mieux pour. Ce qui est difficile avec les médias sociaux, c'est de partir. T'sais, une fois que tu es parti, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste comme elle, là, mais ce qui est difficile, c'est d'aller chercher le monde, exactement, d'encourager à embarquer dans le projet. Puis, en tout cas, avec la radio, qui est un autre projet parallèle, on essaie encore, après 3 ans, d'aller chercher, de titiller l'attention. Mais c'est vraiment un métier. Puis, une chance qu'il y a des gens qui le font parce que c'est vraiment une machine à comprendre.
Bien, on est chanceux d'avoir Mel. Puis, tu sais, moi, j'allais vécu un peu avec la GMQ, la chaîne YouTube qu'on a partie. Et au départ, tu vois, là, on a dépassé 5000 abonnés. Mais au départ, j'avais l'impression qu'on allait chercher les abonnés un par un. Là. Je peux également les appeler pour les remercier de s'abonner à la chaîne. Mélissa, merci beaucoup pour ta participation. Tu as été.
Merci à vous. Oui, Nico. Merci à vous pour l'invitation.
Bien, ça fait plaisir, Nico. Mot de la fin.
Tennis Alex, bon tennis Mel, bon tennis tout le monde. Allez, il fait beau, allez jouer dehors, là, même si j'ai plus de filant, voyez-vous la balle quand même, faites de l'exercice, ça fait du bien.
Oui.
Bye bye. Ce sera tout. Conseil de docteur. Voilà.